Gloire au Seigneur. Voilà, sans tarder, je vous invite à ouvrir le Saint-Livre. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 18, à partir du verset 33. Nous allons faire quelques lectures. Nous lisons ensemble. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Nous allons au chapitre 19 de ce même évangile, à partir du verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Au verset, nous disons maintenant au verset, à partir du verset 15, « Ils s'écrièrent « Hôte, hôte, crucifie-le » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César !» Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nommait en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, « Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Amen. » C'était une lecture longue, mais importante, qui nous permet de voir et de peut-être saisir davantage le contexte. Nous sommes à la fin du ministère terrestre de Jésus-Christ. Jésus est appelé par Pilate et il va s'entamer une discussion avec Pilate. Jésus aurait pu ne rien dire. Jésus aurait pu lui renvoyer d'autres choses, parler d'autres choses, mais il va parler de sa royauté. Et je ne sais pas si ça vous a déjà surpris, parce que finalement il dit qu'il est roi, mais on sait très bien que ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. D'autres attendaient ce moment. Les disciples de Jésus, les sympathisants, ceux qui suivaient Jésus-Christ, ont attendu ce moment, que Jésus leur dise « Je suis roi ». Parce que nous savons très bien que la foule voulait le faire roi. D'ailleurs, les disciples d'Emmaüs, Vous connaissez cette histoire qui partent de Jérusalem en direction d'Emmaüs, voulaient cela. Ils étaient déçus. Ils n'ont pas compris. Et Jésus va proclamer sa royauté, va dire qu'il est roi devant Pilate. Mais en notant cette petite distinction tout de même, c'est qu'il va appuyer sa royauté sur la vérité, et non pas d'une manière politique. Et il va l'expliquer, si j'étais roi ici-bas, si mon royaume était ici-bas, j'aurais pu faire intervenir mon père, j'aurais pu m'en sortir. Mais c'est pas cela qui l'intéressait, puisque nous le lisons dans les évangiles, depuis le commencement de son ministère, Jésus présente le royaume des cieux, le royaume de son Père. Alors effectivement, nous comprenons qu'il y a un royaume, mais qui n'a rien à voir avec la politique, qui n'a rien à voir avec ce que l'on connaît actuellement. C'est un royaume où règne la vérité. D'ailleurs, la Bible donne une définition de ce royaume. On connaît tous ce verset, ou la plupart, c'est dans Romains 14, au verset 17. Il nous est dit ce que le royaume de Dieu n'est pas, mais ensuite, il nous est dit quand même ce qu'est le royaume de Dieu. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et on comprend que ce royaume, que Jésus est venu instaurer ces choses-là. Ce qui aurait pu quand même interpeller Pilate. Et nous, ce soir, par la même occasion, puisque nous comprenons bien que tout ce que nous partageons, c'est cela nous renvoie d'une manière personnelle l'Évangile par rapport à nous, ce que Jésus-Christ a dit, a fait, d'une manière individuelle dans notre propre vie. Ce qu'il va répondre à Pilate quand même mérite notre attention pendant un instant, même si c'est pas cela là, la pensée première de ce message, mais quand même, ça mérite qu'on puisse y attarder, parce que Jésus va être quand même succinct dans ses réponses, mais il va répondre. Et il va dire, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et dans ce simple verset, Jésus est en train d'expliquer à Pilate qu'il est né, donc qu'il a pris l'humanité, qu'il est venu en tant qu'homme, qu'il est venu pour accomplir sa mission, mais il exprime aussi qu'il est venu. Et il exprime ainsi sa divinité. Et on va le voir, ça aurait dû quand même résonner dans le cœur de Pilate. Parce que Pilate a été effrayé, Pilate aurait voulu que cette histoire ne soit pas à lui, Pilate aurait voulu peut-être que ça soit, même sûrement que ça soit les Juifs qui gèrent cette histoire, mais il a été confronté à Jésus-Christ. Et dans notre vie, vous savez, il y a des personnes qui ne veulent pas de la vérité. Ça les intéresse pas. Parce que être confronté à la vérité, quelque part, qu'on le veuille ou pas, ça nous oblige à faire un choix. Ça, qu'on le veuille ou pas, ça nous oblige à regarder notre propre vie. Et on est nombreux à, quelquefois, être comme Pilate, à vouloir dire « mais je ne veux pas m'en occuper, régler cette histoire ». Mais ça n'a pas été ainsi. Parce que Jésus a voulu qu'il puisse comprendre ce qui était en train de se passer. Parce que la royauté, c'est quand même quelque chose d'important. Depuis la Genèse, depuis l'Ancien Testament, il y a cette même pensée, et vous allez voir où je veux en venir quand même, c'est que dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de différence. Il y a un même Dieu. Et lorsque Jésus est venu dans ce monde, c'est ce même Dieu qui a pris forme humaine pour venir nous montrer une direction. Mais dès le début de l'humanité, et dès que Dieu s'est choisi son peuple, il a été vers son peuple pour dire « mais voilà ce qu'il y a dans mon cœur ». Je vous prendrai, c'est Exode, et il y a beaucoup de textes qui nous en parlent, Exode, Jérémie, Deutéronome, il y a sans cesse cette pensée de Dieu qui dit « mais je veux être votre Dieu, je veux être votre roi, je veux vous montrer la vérité ». Je vous prendrai, je serai votre Dieu, vous saurez que c'est moi qui vous affranchis. Je vous ferai entrer dans le pays promis. Mais pour nous, le message de l'Évangile, c'est bien sûr, je vous ferai entrer dans une vie de liberté, dans une vie où, comme on l'a chanté en chant d'introduction, de, quand Jésus est devenu le maître de ma vie, la paix, la joie. Bien sûr que pour certains aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, mais il y a toujours ce même cœur de la part de notre Dieu qui dit « Mais voilà mes projets pour chacun d'entre vous. Voilà pourquoi Jésus est venu, parce qu'il est, il est le roi de la vérité et Jésus sait très bien, parce que c'est lui la vérité, et le message qu'il y a derrière, c'est celui-ci, mais c'est la vérité qui peut vous affranchir, qui peut vous apporter cette réelle liberté. Et c'est ce roi-là dont nous avons besoin dans notre vie. On n'a pas besoin d'un gouverneur, on n'a pas besoin d'un responsable, et on pourra aller même un petit peu plus loin en disant qu'on n'a pas besoin que ça soit nous le responsable de notre vie. Parce que on peut prendre des décisions qui ne sont pas bonnes, et on le sait. On peut faire des choix qui ont des conséquences dans notre vie. On peut entendre des choses et faire des choses qui sont peut-être des fois contraires à notre volonté. Mais laissez-moi vous dire que si Jésus se présente comme roi, celui qui est venu instaurer la vérité, c'est parce qu'il sait que c'est ce que nous avions besoin dans notre vie. Et la réponse que Pilate a eu, mais finalement, c'est pas Pilate qui a eu cette réponse, c'est Jésus-Christ, par le peuple, et cette réponse que, bien sûr, nous avons dû faire à un moment donné, peut-être que c'est une réponse que vous avez dû faire, vous, dans votre propre vie, c'est ce que nous dit la première partie, la deuxième partie de ce verset 15, du chapitre 19, « Nous n'avons de roi que César ». Et ça nous amène à cette question. Mais finalement, qui est notre roi? C'est quoi qui gouverne ma vie? Roi, c'est celui qui est souverain. Ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Finalement, qu'est-ce qui est dans mon cœur, dans ma vie? Est-ce que c'est le monde? Nous n'avons de roi que César. La vérité ne nous intéresse pas. Et on peut dire cela. Parce qu'on est libre, ça peut être beaucoup de choses, vous savez. Le peuple d'Israël, tout à l'heure j'ai parlé de l'Ancien Testament, mais le peuple d'Israël déjà avait fait cette même réflexion. Donne-nous un roi au prophète. C'est dans 1 Samuel. Si vous êtes accoutumé à lire la parole, vous connaissez ces versets. Si vous ne les avez jamais entendus, c'est pas grave. C'est pour vous montrer qu'il y a toujours cette unité et surtout que le cœur de l'homme n'a pas changé. Et le cœur de l'homme ne pourra jamais changer de lui-même, parce qu'il y a toujours cette rébellion par rapport à Dieu. Le peuple d'Israël qui avait vu des miracles, comme le peuple juif qui avait vu Jésus faire des miracles, avait cette même chose et dans leur cœur, et nous-mêmes, nous avons sans cesse cela, mais je ne veux pas de Dieu comme roi dans ma vie, je veux que ça soit moi qui choisisse. Je veux un roi qui me ressemble, je veux un roi qui ne me rappelle pas ce qu'est la vérité. Ou je veux un roi qui avec lequel peut-être je peux arriver à m'arranger. Mais c'est pas ainsi. Et si Jésus est venu, je suis né et je suis venu, a dit Jésus. Je suis né pour faire la volonté de Dieu et c'est ce que Jésus a fait. Et il est venu pour s'offrir en sacrifice. Et c'est pour cela qu'il y a la croix qui suit ce dialogue. Parce que c'est ce qui venait mettre le sceau final à sa venue sur terre, au sacrifice, à ce qu'il a voulu montrer au monde. Parce que notre roi, alors j'ai passé un peu rapidement, mais c'est pas vraiment ce qui va le fond de ce message, mais il était nécessaire qu'on comprenne ces choses, c'est que on peut être dans le péché, vivre dans le péché, et le péché, bien sûr, peut être le roi de notre vie. Ça peut être l'argent, mais de toute façon, tout est lié. Ça peut être la haine, la colère, le non-pardon, l'orgueil, la demande, on veut que Dieu nous fasse justice, et on pourrait multiplier les exemples. Et tout cela prenne la première place dans notre vie. Et ainsi, peut-être même sans s'en rendre compte, on refuse la vérité. On refuse ce que Jésus-Christ veut nous offrir. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui est marquant, et je vais vous le lire, je ne vous donne pas la référence de suite, sinon vous allez aller voir et ça va être un peu différent. Je vais vous le lire dans une autre version, qui n'est pas la version Louis II. C'est Dieu qui parle à son peuple. Parce que ne pas vouloir le Dieu de la vérité, ne pas vouloir le roi de la vérité, ne pas vouloir celui qui peut nous affranchir du péché, automatiquement, ça nous amène à choisir un autre roi. Si c'est pas Dieu qui me donne la paix, si c'est pas Dieu qui remplit mon cœur, ma vie, automatiquement, je vais aller chercher ce que Dieu n'a pas pu, ce que je n'ai pas voulu prendre chez Dieu dans le monde. Voilà ce que Dieu dit. J'en viens à vous maintenant, à vous qui m'abandonnez et qui avez oublié le chemin de la montagne qui m'est consacré. Regardez la suite, qui versait des repas à Gad. Et ici s'arrête la version Louis II. Mais la traduction de Gad, et c'est ce que nous dit cette version, vous versez des repas à Gad, le dieu de la chance, et vous offrez des vins mélangés à Méni, le dieu du destin. Et ça, c'est ce qui peut résumer une vie. Une vie qui est là, au gré de la chance, au gré du destin. Ou mon roi, c'est la chance, par exemple, ou le destin. Mais ce n'est pas la vérité. Et laissez-moi vous dire ce soir que ce n'est pas la chance qui va faire que vous allez pouvoir recevoir la paix de Dieu. Ce n'est pas le destin, parce que, comme peuvent le dire certains, il y a cette expression, ce n'est pas parce que vous êtes né sous une bonne étoile ou une mauvaise étoile que vous allez pouvoir être affranchi du péché, être réconcilié avec Dieu, connaître ce qu'est la véritable liberté, la joie, qui ne dépend pas des circonstances, cette paix que Dieu veut nous donner. Si tant est que vous recherchiez, que vous êtes intéressé sur la paix, bien évidemment. Mais quand même, je pense que ce soir, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes interpellés, parce que nous, peut-être vous vous questionnez sur Jésus-Christ, sur ce qu'il a fait. Mais tiens, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il était roi, alors qu'on sait très bien qu'il n'est pas venu pour régner maintenant? Pourquoi est-ce qu'il parle de vérité? Mais parce qu'il y a toujours cette même direction. Et le chemin de la croix, parce qu'on va y arriver quand même, au chemin de la croix. Comme nous l'a présenté ce chant, ces mains qui ont été percées, ce chemin qui nous dirige sur le sacrifice de Jésus-Christ, lui qui est né, mais lui qui est venu, parce que Christ, c'est Dieu. Et la croix, c'est la vérité. C'est pas, et je le répète, le destin qui va faire que finalement, ben, si on a de la chance, si on rencontre les bonnes personnes sur terre, si on croise les bonnes personnes, on fait ce que l'on doit faire, ce qui a été écrit, peut-être on peut arriver à être libéré et à connaître ce qu'est la joie. Non, il y a un chemin sur lequel il faut marcher. Et c'est ce chemin que Jésus a pris. Et on en revient un petit peu à Pilate. Parce que Pilate a été quand même marqué par la venue et par son entretien avec Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a écrit. Et là, on va peut-être un petit peu plus loin. Parce que Pilate, il a écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Alors, est-ce qu'il est sauvé, Pilate? Parce que il a écrit « C'est le roi ». Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce que parce que j'ai une connaissance intellectuelle de Jésus, cela suffit dans ma vie? Est-ce que c'est parce que je reconnais que Jésus-Christ a existé, qu'il est venu sur terre, que je suis sauvé? Est-ce que si je reconnais que Jésus-Christ effectivement a fait du bien autour de lui, qu'il a parlé d'une manière extraordinaire, si je reconnais cela, je suis sauvé? Et ça suffit pas. Parce que le chemin de la croix, c'est jusqu'au bout. C'est pas s'arrêter à l'écriteau, à la pancarte. L'évangile, c'est pas s'arrêter à cette pancarte qui dit, voilà, là est le roi des Juifs. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est aller jusqu'au bout. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est d'accepter. C'est pas de voir cette pancarte, cet écriteau, c'est de l'avoir dans son cœur. De comprendre que Jésus a laissé ses mains percées, ses pieds percés, son côté percé, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions comprendre que ce qu'il avait à nous offrir, c'est plus qu'une base morale de vie, que c'est plus une ligne de conduite selon la norme d'une moralité que l'on se serait faite selon notre éducation ou autre. Mais c'est ce qui nous permet d'être approuvés de Dieu, réconciliés avec Dieu. C'est ce qui nous permet d'arrêter d'aller vers le Dieu chance ou d'aller vers le Dieu destin pour espérer aller mieux si le chemin est dur, est long, est rempli de peine. Ça peut arriver, vous savez. Comme ce chant que nous avons chanté, ce chemin qui est là, qui est douloureux, où on espère que le lendemain ça ira mieux, où on espère qu'il y aura quelque chose qui va se passer parce qu'on a tous envie qu'il se passe quelque chose. Sans Dieu, on espère tous que le Dieu de la chance va venir taper à notre porte. Mais ce n'est que virtuel, parce que ce n'est pas ce qui réglera le fond de notre cœur. Ce n'est pas ce qui va changer notre cœur. Ce n'est pas ce qui va enlever ce désir de finalement de dire « Mais donne-moi un autre roi, je veux un autre roi. » Il n'y a que Dieu qui peut changer notre vie. Il n'y a que Dieu qui peut nous amener à la vérité. Et Pilate, vous savez, même s'il a été marqué par Jésus-Christ, même s'il a écrit que Jésus était le roi des rois, ce n'était pas son roi à ce moment-là. Il est resté figé sur ce qu'il pensait. Ça peut arriver de rester bloqué. Parce que Pilate va dire, alors vous allez dire que je vais peut-être un peu loin, je vous l'accorde, mais quand même vous pouvez être d'accord avec moi sur la pensée, parce que Pilate va dire « ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Je n'ai pas à changer d'opinion. Ça vous est jamais arrivé de dire ça ? Écoute, ce que je pense, je le pense. Je n'ai pas envie de changer. Je n'ai pas envie de réfléchir. Je n'ai pas envie de m'intéresser. Je n'ai pas envie de regarder à cette histoire, à cette affaire. Ça nous est tous arrivé à un moment donné ou à un autre de dire « oh ben, j'ai pas envie ». Parce que ça pourrait nous remettre en question. Et c'est pas facile de se remettre en question. C'est pas facile d'avouer peut-être qu'on a pris un mauvais chemin. C'est pas facile de dire que peut-être toute notre vie on a dit « mais je n'ai de roi que César ». Alors qu'on s'aperçoit que finalement Jésus est là et qu'il désire qu'une seule chose, c'est de nous prendre par la main et de nous guider, de nous diriger, de nous offrir le pardon de nos péchés. Ne restons pas, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un ce soir est là, bloqué sur ce qu'il pense, dans une voie sans issue par rapport à une direction de Dieu, parce qu'on n'a pas voulu entendre, parce que des fois on ne sait pas trop, on a du mal à entendre la voix de Dieu, ou parce que vous vous approchez, vous pensez que ce chemin-là, c'est peut-être le bon chemin, mais si Dieu n'est pas avec vous sur le chemin, si Jésus-Christ n'est pas votre chemin, ça sera une voie sans issue. Alors ne restons pas bloqués, figés, mais peut-être admettons qu'on se trompe, admettons que peut-être que ce que Dieu dit, on a tout intérêt à y prêter attention. Parce que quand même, le message de l'Évangile, c'est pas un message qui nous trompe. Le message de l'Évangile, et je terminerai avec cette pensée, c'est un message qui est à l'image de la tunique de Jésus-Christ. Et c'est là où on va en arriver ce soir. C'est à cette tunique sans couture. Parce qu'on peut se poser beaucoup de questions, vous savez. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs, en disant mais le Dieu de la chance, le Dieu du destin, ceci, cela. Mais il n'empêche que c'est la réalité. Et le message de l'Évangile, c'est un message de bénédiction dans sa globalité. Le vêtement de Jésus-Christ, sa tunique, n'a pas été cousu, ça n'a pas été plusieurs morceaux qui ont été mis ensemble, ça a été une seule pièce, sans couture. Ce que le message de l'Évangile veut nous donner, ce que Christ a accompli sur la croix lorsque son sang a coulé, lorsqu'il a reçu cette couronne d'épines et que les soldats lui tapaient sur la tête, Ce que Christ avait dans son cœur, c'est nous. C'est parce qu'il savait qu'on avait besoin d'un pardon global, pas de la moitié d'un pardon, pas de la moitié d'une restauration, pas la moitié d'une vie éternelle, pas la moitié de la paix, pas une paix qui essaye de se raccommoder avec le monde, non. Ce que Jésus veut nous offrir, veut offrir ce soir à quelqu'un, c'est de comprendre que ce que Christ a accompli, c'est pleinement nécessaire. Une seule tunique sans couture, un seul sacrifice plein, entier, de la part de Jésus-Christ, c'est cela qui vous offre d'être affranchi du péché. C'est cela qui vous donne cette liberté si vous décidez de mettre votre foi en lui, si vous décidez de faire une prière toute simple, de 5 minutes, 10 minutes, mais 3 secondes, 1 seconde. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, secours-moi. Et c'est ça le miracle de Dieu. C'est ça le roi qui vient régner dans nos vies, avec la vérité, avec la paix, avec le pardon, avec justice. Et c'est cela que Christ veut offrir. C'est pas un évangile qui a besoin d'être recousu, d'être modifié, raccommodé avec le monde. Ce n'est pas un pardon qui a besoin d'autre chose. Ce n'est pas une guérison qui aura besoin d'une autre méthode ici-bas. Ce n'est pas quelque chose qui va se trouer au fil du temps ou se délabrer. Votre vie chrétienne, ce que Christ vous offre ce soir, ce qu'il désire, c'est que vous puissiez comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où, au fil du temps, on voit les mailles s'effilocher, on voit les trous arriver, on se dit « mais peut-être qu'il faut que je change, ce n'est plus actuel », non. C'est une tunique, c'est un sacrifice qui est suffisant. C'est ce que Jésus-Christ est venu pour accomplir. Et Jésus a pris le temps, vous savez, de parler avec Pilate. Je suis né, je suis venu. Je suis né parce que Jésus-Christ a voulu volontairement prendre cette forme humaine. Mais j'aime ce verset qui dit qu'il a traversé les cieux pour venir jusqu'à nous, pour mourir sur cette croix, pour que nous ayons un plein pardon, une pleine guérison, pour que nous ayons une vie en lui, pas la moitié d'une vie. Bien sûr, si vous refusez le pardon, si vous refusez la consolation, Jésus ne va jamais vous bousculer. On peut vivre, vous savez, toute une vie en boitant. C'est possible. On peut vivre une vie en ne voyant que d'un œil. C'est possible. Et ça peut être même la volonté de Dieu. Mais si Dieu nous offre nos deux yeux, nous offre la vision, une vue spirituelle, ne nous contentons pas de la moitié. Si Christ vous offre le plein pardon, ne vous meurtrissez pas au fond de votre cœur en disant « mais je ne mérite pas » et parce que certaines personnes, des fois, n'acceptent pas. Ne soyez pas comme cela. Il y a ce verset... Peut-être vous y avez pensé, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Ce soir, ne regardons pas quelque chose qui pourrait se rajouter à l'Évangile. Ne recherchez pas quelque chose qui pourrait suppléer à Jésus-Christ. Ne regardez pas, ne cherchez pas ici-bas quelque chose qui pourrait remplacer la vérité de Jésus-Christ. Parce que ça serait déchirer peut-être votre vie, une partie de votre vie. Et j'irai plus loin, et c'était le titre de mon message, peut-être que ça pourrait déchirer le message de l'Évangile pour vous. Ça pourrait déchirer le plan de Dieu pour nos vies, si vous essayez de combiner Jésus-Christ avec le monde, l'œuvre de la croix avec le monde. Vous savez, ces soldats, ce jour-là, ils ont dit une phrase qui est remarquable. Ne la déchirons pas. Ne la déchirons pas. Je ne sais pas s'ils ont compris, on ne sait pas s'ils se sont convertis après. mais que ça puisse être notre phrase, notre prière. Ne déchirons pas l'Évangile ce soir, mais acceptons-le comme il est, dans sa globalité. Si Dieu me dit que je suis pécheur, il me dit qu'il y a une solution pour mon péché, c'est la repentance. Et je peux venir, tel que je suis, dans sa sainte présence, pour avoir le pardon de tous mes péchés. On peut prier un instant ? Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as eu la délicatesse de nous parler. Merci pour cette bonne nouvelle. Oui, tu es né, tu es venu jusqu'à nous pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, être réconciliés avec Dieu, connaître la vérité. Quelle grâce, quelle bénédiction, mon Père. Oui, je veux te remercier, je veux te prier si dans ce lieu il y a quelqu'un qui peut-être essaye de raccommoder sa vie avec toi, mais avec autre chose. Je pense, peut-être c'est pour quelqu'un ce soir, à ce verset dans l'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Peut-être que toute votre vie, ça a été déchiré. Et peut-être que ce soir, c'est un temps où vous pouvez être reconstruit avec Dieu. Père, je te prie, si dans ce lieu, des personnes ont essayé, qu'elles puissent comprendre que c'est toi la solution, que c'est toi la vérité, que c'est toi qui veux être notre roi, notre souverain, parce que tu sais ce qui est bien pour nous, parce que tu veux notre bonheur, parce que tu nous aimes, parce que tu veux que notre nom soit écrit dans ce livre de vie, où tu nous veux avec toi pour l'éternité. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas faire. Oui, ton évangile, ta bonne nouvelle, l'œuvre de ta croix est pleinement suffisante pour que nous puissions recevoir la paix, le pardon et cette joie qui vient de ton cœur. Merci, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.